Nous sommes mercredi, vous vous masturbez en pensant à l'amiibo Bayonetta, c'est le Dojo Bar.
Bar.
Voilà, bonsoir à tous. Pas bonsoir Méduse qui sèche encore une fois, hein, qui malheureusement a maintenant une activité rémunérée régulière et qui donc est régulièrement absent. Hein. C'est un petit peu le leitmotiv de cette saison. Saison du Dojo Bar qui se termine donc ce soir. Et comme d'habitude, alors pas forcément toujours en fin de saison, mais en général en fin d'année, on va essayer de faire un gros bilan des actualités marquantes de l'année, des jeux marquants de l'année. Voilà, et je serai accompagné aujourd'hui bah, seulement de Drosgar pour l'instant.
Seul survivant.
Seul survivant de tout le crew du dojo. C'est vrai que là c'est un petit peu compliqué parce qu'on a essayé de rameuter un peu tout le monde, mais voilà, j'espère qu'on sera au moins 3 d'ici la fin de l'émission parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont un tout petit peu à la bourre mais qui vont peut-être venir en cours de route. Si vous nous rejoignez. À peine, je vous rappelle qu'il y a des choses à gagner ce soir. On va commencer par un truc très rigolo. C'est il y a, alors voilà, j'ai la boîte. Hop, il y a une OST de Shovel Knight à gagner. OST de Shovel Knight qu'on peut gagner. Alors c'est la version téléchargeable, hein, je précise. Malheureusement cette année, il n'y aura pas de lot physique. C'est vrai que j'ai un petit peu des difficultés avec tout ce qui est dématérialisé. Malheureusement, cette année, j'ai pas la possibilité de faire des jolis cadeaux. Enfin, des jolis cadeaux tout physique, tout ça. Donc, ça va être du dématérialisé. Il y aura au moins une OST de Shovel Knight à gagner. Et ça, c'est cool. Et il y aura au moins. Alors, il y aura peut-être, ça va dépendre s'il y a du monde ou pas, parce que malheureusement, si on n'est que deux, ça va être un petit peu compliqué. Il y aura peut-être un Fast Racing Neo à gagner. C'est cadeau, on vous file le code de téléchargement et vous vous démerdez derrière. Et tout ça, c'est à gagner dans cette émission.
Gratuitement.
Gratuitement, c'est-à-dire, et donc pas cher.
C'est pas très cher, non.
Pas très cher, voilà. Gratuitement, c'est pas très cher. Alors, pour le Shovel Knight, on va commencer par un truc très bête. Donc, pour le Shovel Knight, attention.
Mais d'ailleurs, le Shovel Knight, c'est du démat, mais l'OST est tellement bonne que c'est pas
Alors
grave.
non, le Shovel Knight, moi j'ai la version physique là. Alors
Ah, t'as
voilà,
la version physique.
je la montre, hein, voilà. C'est une vraie version physique. J'ai la version physique Wii U, j'ai la version physique
Oui,
3DS,
mais
et donc
du
j'avais.
jeu, pas de l'OST.
Alors du jeu, oui, pas de l'OST, oui, ben,
Oui,
ça va,
voilà.
c'est bon, ben, t'as tu hein, c'est.
Voilà, non, mais c'est
Mais
bon, c'est bon.
depuis. Alors, ce qu'on va faire pour gagner l'OST de Shovel Knight, c'est ce que je suis en train de tweeter en même temps. Je suis désolé, vous entendez le clavier en même temps, parce que d'habitude, on essaie d'alterner avec Méduse de sorte à ce que voilà, mais seulement comme Méduse a une activité rémunérée régulière, hein, ce qu'on appelle
Ce n'est plus un
communément un
chômeur.
CDI, hein, voilà, c'est un petit peu le principe. Donc, c'est un petit peu compliqué, je suis obligé de tout faire en même temps, sachant qu'il faut quand même que je meuble un minimum. Et voilà, et là, évidemment, mon téléphone sonne, non, c'est la grande classe. Voilà, donc je vous donne le début de l'URL de téléchargement de Shovel Knight sur Twitter. Attention. Sur Twitter, je vous donne le début de l'URL de téléchargement.
Si moi je la télécharge.
Tu as le droit, comme tout le monde, et je donnerai deux lettres par deux lettres au fur et à mesure de l'émission. Et le premier qui arrive à la choper, à la télécharger, a gagné. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc je vous donne là maintenant tout de suite sur Twitter. Le début de l'URL, donc c'est virt.bandcamp.com/yum/.code=, et je vous donnerai le code au fur et à mesure. Maintenant, Rosgar, j'ai malheureusement une toute petite obligation, donc je te laisse meubler pour.
Wow!
Non, je te laisse pas meubler, non, je déconne.
Et si, je vais faire comme Ikea. Alors
Tu veux
bonjour
faire.
à tous, aujourd'hui il faut faire des mauvaises blagues.
Bon, malheureusement, il va falloir que je m'implante quelques secondes, je suis vraiment désolé, cette émission part très 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 mal.
Comme
Mais
toujours.
voilà, je suis obligé de m'absenter. Je fais une toute petite pause technique. Drosgar, je te laisse la parole si tu veux éventuellement tenter de meubler ou d'évoquer quelque chose. Vas-y. Sinon, tu as le droit de garder le silence jusqu'à ce que ça commence à démarrer, ce qui est quand même un peu dommage. Voilà. Donc,
Bah, je
je
vais
te
essayer de
laisse. Je
faire
suis
mon
vraiment
mieux.
désolé, hein, les enfants. Là, j'ai vraiment une urgence. À tout de suite.
Bon, bah alors, je suis aux commandes, hein, c'est pas mal, même si ça sert pas à grand-chose. Je pense que vous devez être zéro à nous écouter, mais c'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de revenir un peu sur cette année 2015 qui n'a pas forcément été très folichonne du point de vue société, hein, on le sait tous. Parce que bon, commencer sur les attentats et finir sur les attentats, c'est pas forcément terrible. Mais on va essayer de relativiser en pensant un peu à d'autres choses. Donc ici, bien sûr, on parle de jeux vidéo et de Nintendo en général. Mais on parlera d'autres choses, comme, je ne sais pas moi, le marché chinois qui s'ouvre. Bon, je tease un peu, mais tout le monde s'en fout, hein, c'est pas grave. Mortal revient quand même. Et sinon, cette année, bah, pour moi, bon, du coup, je fais mon petit coupon promo. Ça m'a permis d'intégrer l'équipe de Nintendo Dojo, même si c'est qu'à titre d'invité pour les Dojo Bar, mais ça me fait quand même très plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous une semaine sur deux en général, même si je ne sers pas forcément à grand chose, que ça vous a pas grand chose non plus, au moins, bah, je sais pas, ça me fait plaisir de vous partager ça. Oh, c'était larmoyant. Ça se trouve, il va couper ça au montage en plus.
Alors là, je suis navré, hein, chers auditeurs. Je sais pas si t'as essayé de meubler quelque chose. Oui, moi aussi, j'adore comment je montre des choses à la radio. C'est très intéressant. Je verrai bien au montage, voilà, c'est la surprise. Je sais pas s'il va y avoir des choses un petit peu coquines, peut-être, qui se sont dites. Ça serait intéressant. Voilà, donc maintenant que j'ai torché le cul des mômes, que j'ai filé à boire à l'autre petite crétine, et qu'on va peut-être enfin arriver à faire une émission sérieuse,
hein, voilà, parce que là, ça commence à bien faire. Tu as deux, c'est tourné tout seul.
Ça fait juste 10 minutes d'interruption pour rien, donc personnellement, si t'as meublé, ben c'est bien, si t'as pas meublé, et ben je couperai au montage, voilà, crotte.
Ah, j'aurais peut-être me fait de rien dire du coup.
Voilà, je vais donner les deux premières lettres du code de téléchargement de Shovel Knight. Ouvrez bien vos oreilles parce que je ne le répéterai pas. Enfin, je le répéterai peut-être une fois, mais voilà. Là, les deux premiers caractères du code de téléchargement de Shovel Knight sont A6. Je répète A6.
Alors, je dis-moi, Mortal, est-ce que le A est en majuscule ?
Non, le A est en minuscule. Toutes les lettres sont en minuscule. Voilà. Donc je rappelle, hein, pour les gens qui nous écoutent, que vous tapez la petite URL qu'on a envoyée sur Twitter, point d'interrogation, code égal, et dans le égal, eh bien, vous commencez par A6, et vous aurez la suite dans quelques minutes, et le premier qui arrive à le télécharger, il a gagné. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Donc, on va y arriver, peut-être, un jour, à faire ce dojo bar. Nous allons donc... faire un petit bilan des actualités un peu marquantes de cette année. Alors je vous avouerai qu'en termes d'actualités marquantes, on a fait un petit peu le tour là, avec Drosgar avant de commencer l'émission, on n'a pas trouvé grand chose de bien folichon, quoi.
C'est ce que j'avais commencé à leur dire, mais tu le dis mieux que moi.
Ouais, voilà, c'est... Enfin, oui, je le dis mieux que toi, forcément, hein, voilà.
Il y a les professionnels,
et puis il y a les autres, voilà, non, on peut pas se refaire. Non, mais je veux dire, on a la sortie de la New 3DS en Europe, qui est sorti donc le 13 février de cette année. Je sais pas si toi tu es équipé 3DS, je suppose que oui, puisque tu es un fan de Pokémon Donjon Mystère, si je me rappelle bien.
Oh oui. Bah moi du coup j'ai une 3DS que j'avais eu, enfin que j'avais précommandée à la vente, parce que à la Fnac j'avais récupéré 50€ en bon de réduction. Du coup, même si t'es à 250 au début, bah ça m'a fait que 30€ d'écart finalement au prix après la baisse. Donc contrairement à d'autres, je l'ai pas eu trop mal. Et j'ai eu une New 3DS parce que je faisais partie de ceux qui avaient reçu le mail pour recevoir la, entre guillemets, collector spécial Nintendo, avec en fait juste une coque qui change.
Ah oui, t'as vu la coque exclusive
Ouais, c'est ça, la coque blanche avec le logo en idéogramme.
Donc tu es officiellement équipé New 3DS depuis un peu avant la sortie officielle, du coup.
C'est ça.
D'accord. Ok, mais du coup, je sais pas, c'est la dernière, a priori, révision matérielle de la 3DS.
Je pense que oui, et puis surtout avec ce qui peut s'annoncer, dont c'est pas encore grand-chose, parce que même si Méduse analyse les brevets, pour l'instant on n'a rien de concret, il y aura peut-être pas forcément de prochaine console portable. Enfin, on verra bien.
Voilà, on sait pas vraiment, c'est vrai que... Alors, quand la 3DS est sortie, on a tous dit « Ouh là là, les consoles portables, c'est mort avec les smartphones, tout ça ». Bon, finalement, Nintendo a quand même bien niqué tout le monde, encore une fois. en sortant une console qui a plutôt très bien marché. Maintenant, c'est vrai que cette toute dernière révision matérielle, un petit peu comme alors c'est pas la DSi, si c'était la DSi.
Ah si, la DSi.
C'est comme la DSi. Ouais, voilà, la DSi et la DSi XL, finalement, ça a beaucoup moins bien marché que la DS Lite en comparaison. Et que là, avec la DS Tank classique, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils font une nouvelle révision matérielle, ben, comme le parc installé est toujours là et que effectivement 98% des jeux tournent toujours dessus, ben voilà, ça marche pas toujours très très bien. Il y a à mon avis un petit taux de renouvellement, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui effectivement, enfin moi c'était mon cas, j'avais une 3DS standard que j'ai eu à la sortie, moi que j'ai payé au Freefort. Parce que je fais un gros bisou entre les fesses d'Iwata.
Ah oui, et en plus t'as rien de gratuit. Voilà, t'as tout perdu, c'est pas grave.
Ah, moi j'ai vraiment tout perdu. Enfin non, parce que j'ai eu quand même le truc ambassadeur où j'ai des jeux Virtual Console qu'il y avait nulle part ailleurs. Il y en a certains qui sont toujours pas sortis officiellement en Virtual Console, donc qui sont presque des collectors. Donc ça, je les ai gardés. Je me suis acheté une 3DS XL avant l'annonce de la New 3DS, donc ça, c'était le moment winner.
Un peu dommage, ouais.
Voilà, c'était un petit peu con. Et j'ai quand même acheté... Alors non, j'ai acheté une normale.
Ah oui, et en plus, oui, donc rien pour toi, c'est pas grave.
Ouais, voilà, rien pour moi. Là-dessus, je me suis bien fait baiser. Bon, j'ai réussi à la revendre à un bon prix et tout ça, j'étais content, mais... voilà, je me suis acheté une New 3DS XL, j'en suis très content. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que j'ai toujours pas de socle de chargement. Parce qu'il est absolument impossible à trouver. Depuis le mois de février, j'ai une commande sur Amazon qui n'en finit plus. Donc je trouve ça très très dommage que finalement, voilà, il y a eu. La console en elle-même est très bien. Hein. Effectivement, c'est une dernière révision de console. Donc c'est un petit peu comme la DSi, la DSi XL et tout ça. Ça offre quand même plein de possibilités. C'est très intéressant matériellement. Il y a plein de choses dedans et tout ça. Maintenant, malheureusement. J'ai envie de dire, bah on se retrouve quand même avec la même console toujours. Alors les jeux exclusifs finalement, il y en a peut-être deux, je crois, il y en a qu'un seul.
Bah il y a Xenoblade et après il y a des jeux qui s'adaptent comme Metal Gear Solid ou Majora's Mask, mais c'est rien de folichon.
Il y a rien de folichon. Le seul petit truc éventuellement intéressant, c'est la Bitoon.
Oui.
Parce que
le clitoris, on l'appelle dans le milieu.
Voilà, clitoris. Hein, le CirclePad Pro était quand même une des plus belles arnaques du 21e siècle, je pense qu'on peut le dire. Maintenant, c'est vrai que clitoris, ça passe. Enfin, c'est pas si mal que ça. Je sais qu'effectivement, sur des jeux comme Resident Evil Revelations, par exemple, ça, c'est plus sympa que le CirclePad Pro, je trouve.
Oui, et puis, c'est pas pareil, je trouvais. Le sentiment de... Enfin, moi, ça me rappelle beaucoup les sortes de petits clitoris qu'il y avait aussi sur les vieux ordi portables, qu'il y avait au centre du clavier, tu sais, qui servait de souris alternative.
Oui, qui servait de espèce de trackpad, mais qui était vraiment un trackpad.
Bah, enfin, je sais pas, je trouve ça sympa, ça me rappelle des vieux souvenirs, et voilà, c'est tout à fait personnel, mais bon.
Voilà, enfin, c'est vrai que c'est une très sympathique révision matérielle. Si t'as jamais eu de 3DS, c'est vraiment bon plan.
Ça vaut le coup,
si,
oui.
Voilà, si t'as déjà une 3DS... Bon, très honnêtement, c'est pas non plus la super folie, quoi.
Bah, à moins d'être un fanboy comme nous, c'est vrai que ça vaut pas le coup.
Voilà, et c'est vrai que les chiffres de vente montrent bien que, bon, c'est voilà, les gens aujourd'hui achètent des New 3DS. Alors, c'est vrai qu'entre deux, il y a eu aussi la 2DS.
Oui, ça...
Qui a une vision matérielle un petit peu curieuse. Donc c'est vrai que la famille 3DS est devenue très très bizarre. Je ne sais pas s'il se vend toujours des 3DS standards.
Je sais
que les 2DS se vendent, je sais qu'il y a des New 3DS, des New 3DS XL qu'on trouve un peu partout, je ne sais pas s'il y a encore des 3DS et des 3DS XL standard.
Des 3DS XL peut-être, enfin je crois en avoir peut-être déjà vu dans la Fnac qui est vers chez moi, mais des 3DS normales, franchement, honnêtement, non.
Voilà, mais je pense que c'est peut-être fini comme modèle. Mais bref, voilà, bon, ça faisait partie malgré tout des événements de l'année, même si c'est un peu limite. Le deuxième événement qu'on a retenu, qui est bon, pas non plus, il n'y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard, c'est l'ouverture du marché du jeu vidéo en Chine.
Oui, j'avais commencé à l'aborder tout à l'heure.
Voilà, donc ça c'est un vrai événement, puisque la Chine c'est un des premiers marchés du monde pour tout un tas de trucs, enfin c'est en tout cas un des premiers marchés potentiels du monde. On vous rappelle qu'un marché potentiel c'est un marché qui n'existe pas vraiment, mais comme il y a des gens, il y a peut-être moyen de moyenner quoi. Donc l'ouverture du marché, alors je sais pas si tu l'as déjà précisé, mais effectivement je sais plus si l'ouverture a été officiellement on va dire propagandée.
Ça a été fait en juillet, je crois, enfin ça avait commencé en 2014 avec Attends,
il y a eu un
je trouvais ça
décret
tout à
qui a
l'heure.
dit oui, on va ouvrir officiellement,
C'est ça, mais juste dans la zone de Shanghai, et puis après ça a commencé à s'ouvrir un peu plus. Donc c'est vrai que pour eux c'est un peu une aubaine quand même, parce que avant ils étaient obligés de passer par des entreprises chinoises, parce que tous les étrangers sont obligés de passer par une entreprise chinoise pour investir sur place. Ils n'ont pas le droit sinon. Et du coup ils vendaient des sortes de consoles alternatives. Enfin, c'était pas des vraies consoles qu'on avait chez nous, c'était des modifications.
Oui, on se rappelle tous de l'iQ, par
Ouais,
exemple, de
voilà.
Nintendo, qui était
J'avais pas de nom
une
en tête.
N64 portable. Très sympathique d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Alors, c'est dommage, c'est que c'est que du jeu dématérialisé, donc c'est pas forcément super évident d'arriver à s'en fournir une. Maintenant, le marché chinois est aussi très connu pour ses copies pirates, et je pense qu'il y a moyen de trouver des iQ avec l'ensemble de la ludothèque dedans sans trop de problème.
Oui, je pense aussi.
Ah mais c'est vrai que c'était systématiquement soit passé effectivement par des revendeurs, soit les vendre sous d'autres marques. Alors, il y a eu le même genre d'embargo un petit peu bizarre entre la Corée du Sud et le Japon. Alors, vous savez que la Corée et le Japon ont été ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a une loi en Corée qui interdisait de vendre des produits venant du Japon. Et cette loi a duré pendant très très longtemps, et elle a été abrogée il y a finalement relativement peu de temps, ça doit faire une dizaine, peut-être une quinzaine d'années. Mais donc il y a eu tout un tas d'entreprises japonaises qui ont vendu des consoles de jeux, notamment en Corée, sous un autre nom. Et c'est comme ça que sous la même marque, on avait la Mega Drive, qui était vendue sous la marque Samsung Aladdin. Et la même marque Samsung Aladdin vendait aussi la Game Boy, qui était appelée Samsung Aladdin Boy.
Comme ça, il joue sur les deux tableaux. Parfait.
Voilà, non mais c'est ça, c'est un peu ça, c'est des lois un petit peu curieuses, mais c'est vrai que nous, occidentaux, on se rend pas bien compte, mais c'est le paysage géopolitique là-bas fait que effectivement, c'est pas forcément toujours évident. Maintenant, pour le cas de la Chine, c'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que toutes les consoles qui sont vendues quasiment dans le monde aujourd'hui, genre avec très peu d'exceptions près, je pense que même la Xbox One, parce que la Xbox 360 était fabriquée partiellement au Mexique pendant un moment, mais il me semble que maintenant elle est fabriquée en Chine aussi. Hein.
Je veux
Si
dire
quelqu'un a
oui, mais je te laisse
l'information
dire.
puisse nous confirmer éventuellement, c'est quand même extrêmement curieux de se dire que les mecs fabriquent des trucs qu'ils envoient au Japon qui finalement ne reviennent jamais chez eux, quoi. Voilà, c'est un peu ça le principe du marché du jeu vidéo chinois. Et donc là, entre guillemets, l'événement, c'est que Sony a été un des premiers à plonger, on va dire, en direct avec la sortie de la PlayStation 4 et de la PlayStation Vita en Chine. Donc a véritablement commencé à profiter de ce marché-là et a commencé à essayer de vendre des consoles. Alors je sais pas si ça a
Après,
bien marché.
voilà, après entre nous, on n'a pas les chiffres, donc il faut demander à Oscar Le Maire pour le savoir, mais bon, je pense que le marché chinois doit être assez fermé, donc je sais pas s'ils ont l'autorisation de communiquer dessus.
Alors voilà, je sais pas si Sony a le droit de communiquer dessus, je sais pas si les autorités chinoises ont envie de communiquer dessus. Ce qui est certain, c'est que dans les très grandes villes de Chine, je pense à Shanghai, je pense à Pékin, je pense à vraiment des très très grosses villes, il y a une classe moyenne chinoise qui existe. Est-ce qu'elle aurait les moyens de se payer une PlayStation 4 à un prix, enfin je sais pas quel prix c'est vendu exactement. Est-ce que c'est vendu à un prix compétitif? Est-ce que c'est comme en Amérique du Sud? Alors pareil, dans les marchés un petit peu curieux, faut savoir qu'en Amérique du Sud, le jeu vidéo est associé au jeu d'argent. Donc il tombe sous la même loi que le jeu d'argent, et donc le jeu vidéo en Amérique du Sud est très 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 cher.
Oui, au Brésil, c'est une fortune.
Au Brésil, c'est une fortune, donc ça ne concerne vraiment que des gens très fortunés. Alors est-ce que c'est le cas ici, où c'est vraiment un marché d'ultra-niche qui ne concerne que les riches, les ultra-riches, et voilà, ou est-ce que c'est un truc un peu plus ouvert aux classes moyennes? Je ne sais pas. Voilà, je pense que seul l'avenir nous le dira. Est-ce que Microsoft, qui fait déjà un bon four au Japon, va tenter de se lancer en Chine? Aucune idée. Est-ce que Nintendo, qui a très 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 peur du piratage depuis très longtemps, mais qui avait déjà quand même fait des tentatives d'intrusion en Chine, va essayer de renforcer ce marché-là? Je ne sais pas non plus. Ça va être un petit peu compliqué, mais je pense que voilà, il va falloir commencer à compter sur la Chine, aussi
C'est
bien
une possibilité, oui.
en tant que marché qu'en tant que développeur, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de studios chinois. Alors soit chinois en propre, soit des filiales chinoises de studios connus. On se rappelle tous d'Ubisoft Shanghai, par exemple.
Ah oui, c'est vrai. Mais
Mais
il
c'est
n'a pas
vrai que
fermé?
le... Alors, Ubisoft Shanghai, je suis pas sûr, il me semble que non. Je sais qu'il y a un Ubisoft Roumanie, je crois, qui avait fermé,
Ah oui,
qui
c'est
était
peut-être
très mal
ça.
en point. Là, c'est Méduse qui pourrait nous dire, parce que c'est le grand spécialiste des échecs d'Ubisoft, de manière générale. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Ben voilà. On verra bien dans l'avenir, mais c'est vrai que ça faisait partie un petit peu de... C'est quand même un événement, au moins à l'échelle mondiale, pour le jeu vidéo, de se dire tout d'un coup, il y a un marché de 1,4 milliard de personnes qui s'ouvre en direct. Alors, c'est pas tout
C'est
à
une
fait 1,4
aubaine.
milliard parce que la classe moyenne chinoise, c'est beaucoup moins de gens que ça. Mais voilà, il y a quand même une aubaine quelque part ici, et il y aura peut-être la naissance de vocation, d'un style de jeu vidéo chinois. Enfin, voilà, c'est tout ça qui est intéressant derrière. Le dernier événement qu'on a noté cette année, c'est un événement bien triste, et je pense que ça a un petit peu éclipsé tout le reste, en fait. Mine de rien,
Un peu, oui.
ça nous a quand même tous touchés, c'est le décès de Satoru Iwata, ancien PDG enfin, PDG de Nintendo, du coup, mais voilà. On est déjà revenu dessus pas mal de fois dans le Dojo Bar, je pense qu'on on a tous parlé un petit peu, on a tous eu notre petit moment de grande émotion, que ce soit le jour même ou au moment d'en reparler à des gens. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Satoru Iwata, le résumé de sa carrière, de sa vie, de sa passion. Je sais pas si tu as particulièrement quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, ou s'il y a quelque chose que tu aimerais éventuellement compléter.
Bah après, enfin moi j'étais déjà dans l'équipe si je puis dire lorsqu'on avait fait le sujet justement sur Iwata, donc j'avais dit un peu ce que j'avais à dire, mais c'est vrai que enfin c'est toujours triste. Après le problème c'est que comme je suis relativement jeune, Iwata en tant que personnalité je le connaissais depuis allez on va dire 2, 3 ans, peut-être 4 à tout casser, mais c'est vrai que j'avais pas forcément la même attache avec lui.
Oui, c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil pour. Enfin, c'est-à-dire que les gens comme moi qui ont publié la nouvelle de son accession à la présidence de Nintendo en 2001, c'est un petit peu exagéré, mais c'est presque ça, en se disant voilà, Satoru Iwata, enfin, pardon. Merde, j'ai plus le nom en tête. Crotte. Bon, l'ancien président de Nintendo a dit bon, bah, je démissionne, enfin, je démissionne, je laisse ma place, je pars à la retraite parce que il est temps pour moi de partir. Satoru Iwata arrive, voilà, c'est vrai qu'on avait l'habitude, on le connaissait. C'est à lui qu'on doit la Wii, c'est à lui qu'on doit la DS, c'est à lui qu'on doit tout un tas d'idées, c'est à lui qu'on doit vraiment énormément de choses. Moi, la seule chose que je peux vous dire par rapport à Satoru Iwata, je vous conseille d'aller regarder le documentaire qu'a fait The Gaming Historian, qui est un YouTuber. Connu pour ses vidéos qui sont extrêmement bien documentées. C'est en anglais, mais il me semble qu'il y a des sous-titres français disponibles, ça a été sous-titré par des gens. C'est vraiment une biographie vidéo de la vie de Satoru Iwata, ça dure à peu près 30 minutes. C'est de très grande qualité, et ça marque vraiment. Enfin voilà, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur la vie de Satoru Iwata, je pense que c'est vraiment le truc à voir, ou le truc à regarder, même si vous savez beaucoup de choses sur sa vie, allez le regarder, c'est vraiment très bien raconté. Et c'est vrai que c'est très 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 difficile de retenir ses émotions après avoir regardé ça, parce que voilà, c'est quand même. Ça vous replonge dans tout un tas de trucs, et c'est vraiment pas un président ordinaire, surtout pour une compagnie japonaise. Voilà, pour l'instant, on sait pas trop ce que va donner Tonton Kiki.
Oui, ça, pour l'instant,
Voilà,
on a déjà eu deux, trois aspects, mais bon, ça reste un peu flou.
On sait déjà que ça va pas être un personnage très public par rapport à Satoru Iwata, qui était véritablement un personnage public. C'était vraiment il était à la fois le président et finalement le porte-parole. Il n'y avait pas de porte-parole de Nintendo, c'était lui qui portait la parole directement. Là, on sait que maintenant il y a un porte-parole officiel de Nintendo. Voilà.
Certes.
C'est pas Tonton Kiki qui va le faire lui-même.
Après aussi, il a sa propre casquette de PDG, donc c'est vrai qu'il a peut-être d'autres obligations de son côté,
Tout à
donc.
fait. Je ne sais pas ce que ça donnait, parce que c'est vrai qu'avec la mort de Satoru Iwata, on a eu tout un tas de gens qui ont dit c'était un plaisir de travailler avec lui, et ainsi de suite. Je ne sais pas à quel point enfin, il prenait énormément à cœur tout le travail de communication de Nintendo, et je pense qu'il a vraiment révolutionné la communication de Nintendo. De toute façon, avec les Iwata Ask, voilà, avec tout ça. Est-ce que derrière c'était un bon PDG entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que quand il était sollicité pour sa casquette de PDG, il était là, il répondait présent? Je ne sais pas. Très honnêtement, voilà, c'est le genre de choses qui va être difficile à dire. C'est un excellent communicant, ça c'est sûr. C'est une personnalité assez hors du commun, ça c'est certain aussi. Maintenant, voilà, est-ce que c'était vraiment un bon président? J'aurais tendance à dire, ou si on regarde sur les résultats chiffrés,
On a
oui.
l'impression que oui.
On a plutôt l'impression que oui. Maintenant, est-ce que ses collègues des comités exécutifs, des comités de direction, des conseils d'administration de Nintendo considéraient que c'était un bon président? C'est un petit peu plus compliqué à dire.
Et d'ailleurs, j'ai retrouvé en 2002, c'était Yamauchi qui partait.
Oui, c'est ça, pardon. Hiroshi Yamauchi, je suis vraiment désolé. C'est le nom, mais j'avais sur le bout de la langue, mais il m'était complètement sorti de la tête. On va marquer une première petite pause musicale. Oui, je suis désolé, Pokepab, je viens de voir ta remarque, j'oublie Hiroshi Yamauchi, je suis vraiment désolé, c'est l'émotion, c'est le dernier Dojo Bar de la saison, on est tous un petit peu fatigués. Je vais vous donner les deux caractères suivants pour le code de téléchargement de l'OST de Shovel Knight. Je vous rappelle les deux premiers, A6, les deux suivants, 6K. Je répète, 6K, la lettre K comme karaté. Et ensuite, il y aura un tiret. Voilà, A666K tiret. Je vous rappelle que le premier qui arrive sur la page de virtbandcamp.com, eh bien, il télécharge l'OST, c'est pour lui, c'est son cadeau. J'espère que les mecs de Shovel Knight ont quand même prévu un mécanisme pour dire le code a déjà été utilisé, hein, parce que sinon, ils vont bien se faire barber. Voilà. On va donc se faire une première petite pause musicale et parce que j'ai beaucoup 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 joué à Fast Racing Neo ces derniers jours,
Ah, tu as joué
moi
du coup?
j'y ai joué. Je peux déjà vous dire que c'est pas mal du tout. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est le nouveau F-Zero parce qu'il faut quand même pas déconner. Mais c'est un bon placebo, on va dire. Voilà, on en reparlera peut-être un tout petit peu après. On va s'écouter donc une partie de l'OST de Fast Racing Neo. Le morceau s'appelle Müller Pacific. C'est donc une des courses. C'est de l'électro vraiment pur et dur. Voilà, qui pulse bien, il faut le dire. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 5 minutes. À tout de suite. Voilà, nous voilà de retour.
Tour.
Voilà, j'ai écourté un petit peu la musique. Je peux m'excuser, mais c'est vrai que c'est juste une boucle en fait. C'est un peu dommage. La plupart des musiques sont des boucles assez longues hein, quand même, mais sont juste des boucles, donc j'ai préféré courter un petit peu. Donc, on va essayer de se rappeler les jeux de l'année sur 3DS comme sur Wii U. Alors, on va peut-être commencer par la 3DS parce que ça risque d'être court en fait.
Et oui, elle commence à mourir.
Bah, ça commence à être compliqué, moi je trouve, pour la 3DS. C'est-à-dire qu'en essayant de faire le bilan un peu des jeux intéressants de l'année qui sont sortis sur 3DS, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça.
Bah, en intéressant, on va dire qu'il y avait. Enfin, je pense que tu as dû préparer un fil d'actualité, donc je vais te laisser le dire.
Non, pas forcément, moi j'ai retenu. Il y a Majora's Mask 3D.
Oui, il y a l'autre Zelda, le Triforce Heroes.
Triforce Heroes, donc il y a eu quand même deux Zelda, c'est pas rien, hein,
Oui,
Legend of
enfin, c'est
Zelda.
un remake et un demi-Zelda.
Un Zelda multi, donc c'est vrai que ça se rapproche des Four Swords Adventure, c'est des très bons jeux, hein,
Voilà, ça
soyons
reste des
clairs.
bons jeux.
Mais c'est pas un vrai nouveau Zelda avec une aventure, tout ça reste du multijoueur, c'est très fun. Je pense que Triforce Heroes est vraiment un très bon jeu, j'ai absolument pas de souci avec. Mais c'est vrai que c'est que ça reste quand même un truc assez. Bon voilà, ça meuble un petit peu, c'est sympathique. Pas de quoi faire sauter une braguette. J'ai retenu aussi Codename Steam. Alors qui est un jeu qui avait bien hypé Méduse, qui était bien à fond dedans. Au final, c'est un jeu sympathique, hein, c'est un tactical 3D qui se sert de la 3D. Ce qui est. Voilà, c'est
Assez rare.
Mais par rapport à Fire Emblem qui reste un jeu sur une grille en 2D, enfin qui reste finalement un tactical assez basique. Voilà, là t'as vraiment le fait d'avoir de la 3D, de la hauteur, du machin, t'as vraiment des choses qui se passent avec ça, t'es obligé de viser. Alors là, c'est entre l'action et la 3D, donc c'est plutôt sympa, hein. Le problème, c'est que ça reste assez répétitif. C'est un petit peu dommage. Et moi, j'avais retenu Chibi Robo Ziplash, qui m'avait bien tapé dans l'œil à l'E3 2015, quand il a été présenté, ce qui était très sympathique à jouer.
Qui est sympa.
Au final, alors qui est sympa, mais qui, sur la durée, pareil, est peut-être un poil répétitif.
C'est le problème.
C'est-à-dire que c'est un petit peu répétitif, mais c'est vrai qu'à petite dose, ça passe bien. Et c'est tout.
Bah après, il y avait eu...
Il y avait si
un Monster Hunter,
liste,
non
pas ouais,
de Monster
non, mais
Hunter,
je parle de vrais jeux.
Oui, c'est vrai que ça devait être un Ultimate ou un X. Ou...
Alors je sais pas, mais il me semble que c'était pas sorti fin 2014.
Peut-être.
Mais c'est vrai que...
Je vais vérifier. Enfin,
ce qui est étonnant, c'est qu'on l'avait déjà dit l'année dernière en disant on sent quand même que la 3DS est un petit peu à bout de souffle et que voilà, il y a quand même des gros jeux de prévu. On sait que quand les éditeurs sortent un jeu sur 3DS, il se vend. Donc on sait qu'il va y avoir, on sait qu'il y a du monde.
Ils vendent parce que derrière il y a un gros parc de consoles. Donc
il y a un gros parc de consoles, mais je veux dire, on sait qu'aujourd'hui faire un titre sur 3DS quel qu'il soit, c'est rentable. Voilà, les mecs nous le disent, tout le monde nous l'a dit, c'est bon, ça marche. Maintenant, on sent quand même que la console est un petit peu à bout de souffle. Et on suppose qu'elle va finir par être remplacée. C'est une des consoles de Nintendo, je crois, qui a eu une des durées de vie les plus longues.
Elle va avoir 5 ans en mars, enfin 5 ans chez nous.
5 ans chez nous, ouais.
C'est pas ultra long non plus, mais c'est vrai que ça commence à faire.
Alors après, je sais pas, par rapport à la DS, après c'est vrai que les consoles portables chez Nintendo, c'est compliqué parce que c'est toujours des... Enfin la Game Boy, c'est un truc
ouais,
de
c'est
fou,
demi-console.
Après, t'as toutes les révisions matérielles qui font que c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai que la Game Boy Color, par exemple, ça a quand même été une révision matérielle plus importante qu'une vulgaire révision matérielle, en l'occurrence.
Bah techniquement du coup la DS est sortie en 2005, donc en mars 2005, et la 3DS en mars 2011. Ouais, donc ça fait 6 ans, en sachant qu'on a un an d'avance pour connaître la nouvelle console. Donc ça veut dire que si la prochaine console est présentée à l'E3, c'est le compte correct.
Ouais, c'est à peu près ça, mais en fait en réalité non, c'est finalement pas tant ni long ni court. Je me rendais pas bien compte là comme ça, mais c'est vrai que là tu remets bien le truc en perspective. Hein.
Après tout dépend ce qu'ils annoncent justement. Enfin c'est toujours le problème de la NX, on sait pas ce que c'est.
Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je sais pas, toi, sur 3DS, à quoi t'as joué cette année qui t'a plu alors dans ce que j'ai cité, ou éventuellement dans l'eShop. Alors j'ai pas compté tout ce qui était sur l'eShop, parce que c'est... Alors là, par contre, t'as des dizaines et des dizaines de sorties, de choses plus ou moins bonnes à loi, on va dire.
Alors, cette année, j'ai joué à Chibi Robo, du coup, j'y ai un peu joué. Mais voilà, enfin le problème, c'est que c'est un platformer. J'aime bien les platformers, mais... Par petite dose, je fais un niveau, le lendemain j'en fais un autre, je me pose un peu. C'est sympa.
T'es pas un gros mangeur de jeux de plateforme?
Bah, plus trop. Enfin, j'ai pu l'être avant parce que j'en avais plein sous la main et j'aimais bien. Maintenant, comme j'ai d'autres jeux, c'est vrai que je trouve que c'est un style qui peut être un peu répétitif. Il y a des environnements qui changent, il peut y avoir des mécaniques qui s'ajoutent, mais c'est pas forcément ce que je préfère.
Alors, Pokepab nous dit que c'est février 2015 pour Monster Hunter 4, donc je vous prie de m'excuser, je pensais que c'était sorti en 2014, mais j'ai peut-être confondu avec la date de sortie japonaise ou américaine, c'est pas impossible. Hein.
C'est bien, au moins on a deux auditeurs, mais ils suivent.
Ah, on a deux auditeurs, mais ils suivent, mais parce qu'ils ont envie d'avoir l'OST de Shovel Knight. D'ailleurs, les deux lettres
de
suivantes.
De nouvelles lettres.
Donc vous avez eu les six premières lettres, vous avez eu un tiret, donc un tiret, celui du 6, hein, tiret, quoi, pas souligné. Je vous donne les deux lettres suivantes, E, U. Et voilà, les deux lettres suivantes, E, U, il ne reste plus que deux lettres, et vous récupérez l'OST de Shovel Knight en téléchargement. Je vous conseille pour ma part d'aller le récupérer en FLAC, qui est un format de compression sans perte, donc vous aurez la qualité maximum, et vous pourrez le recompresser derrière dans ce que vous voulez pour le faire tenir dans votre téléphone, votre console, votre quoi que ce soit qui vous serve à écouter de la musique. Voilà, je...
Bah du coup, en parlant de jeux qui sont sortis cette année, Shovel Knight.
Et alors, c'est un peu de la triche.
Ah, il est sorti, alors... Une cartouche qui est apparue sur les étals en 2015.
Voilà, d'ailleurs, la cartouche, la voilà. Hein, je la montre à la radio, hein, comme ça. Antix est très très content quand on montre des choses à la radio. Donc voilà, voyez. Donc là c'est la CD parce que c'est la version Wii U. Voilà, la version 3DS, elle est là. Donc là, c'est une cartouche. Voilà. Elle est pas mal, la cartouche, elle est jolie parce qu'il y a juste, il y a juste Shovel Knight dessus. Là, c'est l'amiibo. Voilà. Tu vois, il est vachement bien.
Ouais, là, je le vois,
Il
il est
a.
superbe.
Non, mais voilà, il a un petit cul tout moulé. C'est vraiment. Il est tout mignon. Et j'avais jamais remarqué, mais en fait, sur la tenue de Shovel Knight, il a une sacrée coque pour lui protéger la bite. Hein. Sur l'amiibo, en tout cas, elle est sacrément grosse. Hein.
Bah surtout moi je l'ai vu à la Fnac l'autre jour et j'ai vu qu'il avait des jambes vachement épaisses, enfin ça me semblait bizarre parce que je m'attendais pas à ça.
Ouais, il a des jambes assez costauds. C'est vrai que c'est un peu curieux. Mais il est très joli, hein, l'amiibo Shovel Knight. Si vous le. Enfin, moi, je vous conseille de le prendre. Il est vraiment très rigolo. En plus, je crois que c'est Antix qui nous avait donné l'information, me semble-t-il. Mais on n'est pas obligé de le sortir de sa boîte pour l'utiliser. Il n'y a pas la petite feuille en aluminium en fait en dessous qui empêche
Oui.
de le brancher sur le NFC. Donc tu peux le garder dans sa boîte collector pour pas qu'il perde de la valeur tout en t'en servant. Ça c'est quand même une petite touche un petit peu rigolote.
Bon, après, c'est aussi bien
Voilà.
de l'avoir autrement.
Alors après, ce qui est bien aussi avec Shovel Knight qui est sorti donc cette année hein, du coup,
C'est qu'il y a
c'est
l'OST.
que
Oui, bon, j'arrête.
alors il y a le mode d'emploi tout en français, tout en couleur. Et ça, c'est quand
Oh.
même un vrai mode d'emploi, et je veux dire, ça fait longtemps. Et il est intégralement traduit, très bien traduit d'ailleurs. Il y a des jolies illustrations avec des beaux artworks un peu partout. Ça ressemble vraiment à un manuel de jeu. Voilà, plaisanterie à part, voilà, je vous le montre, vous voyez, il est beau. Non, je déconne. Plaisanterie à part, c'est vraiment une très très belle release pour 25 euros. Alors oui, c'est plus cher que le jeu dématérialisé. Mais d'ailleurs, il y a une histoire très rigolote. Le jeu était à l'origine à 20 $ aux États-Unis. Et il a donc été monté à 25 $, non pas pour des questions de problèmes de production, mais parce que s'il était en dessous de 25 $, la plupart des magasins, des grosses chaînes américaines, genre Walmart et tout, ne le mettent pas en rayon, ils le mettent dans les bargain bins, donc dans les bacs de promotion. Ils
Ah
le
oui,
mettent pas
d'accord.
directement en rayon. Et les mecs s'étaient dit, putain, c'est quand même dommage, on aimerait bien que notre jeu il soit en rayon, tout beau, tout bien présenté, quoi. Donc voilà, donc une release très sympathique et vraiment. Enfin, j'avais pas vu de mode d'emploi aussi beau depuis Super Mario Bros. 3, quoi, qui était un mode d'emploi magnifique dans lequel t'avais à chaque fois marionnage, machin, avec toutes les illustrations de. Enfin, voilà, ça nous ramène vraiment en arrière et ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui ont. Qui... C'est pas juste on a mis le jeu sur un disque, on a quand même essayé de faire un truc un petit peu sympathique à côté, quoi.
Bah après ils se veulent un peu, enfin un peu rétro dans l'apparence du jeu, donc ils continuent dans tous les
Voilà,
domaines.
tout à fait dans ce domaine-là. Il y a d'autres gens qui ont fait ça. Il y a plein de jeux indés maintenant qui sortent avec une boîte qui s'appelle, je ne me souviens plus du nom, mais peut-être que je vous le retrouverai, ça peut être intéressant. C'est des gens qui font en fait des packs collector de jeux dématérialisés. Donc tu commandes le pack collector et tu as le jeu sur une clé USB, donc matérialisé sans DRM, donc sur une clé USB que
Ouais.
tu peux garder. Et tu as en plus un mode d'emploi couleur, une carte, un machin, pour un prix qui est quelques euros de plus à peine que la version dématérialisée.
Bon, ça peut valoir le coup après, hein.
C'est sympathique, mais surtout que ça permet de les offrir, parce que c'est vrai que Shovel Knight, une des grosses problématiques qu'ont eu les développeurs au moment de sortir le jeu, c'est comment je fais pour offrir le jeu si j'ai envie de l'offrir. Et les mecs avaient dit, bah écoutez, on vous fournit un PDF sur lequel vous avez un petit pliage à faire, donc vous l'imprimez en couleur. Vous faites le petit pliage et en fait ça faisait une petite enveloppe Shovel Knight pour offrir le code de téléchargement du jeu, ce qui était sympathique. Mais voilà, là il y a une vraie release physique. C'est vrai qu'il n'y a rien qui remplace ça, quoi, le plaisir d'ouvrir une boîte, le plaisir d'ouvrir le mode d'emploi, de le feuilleter, d'avoir le vrai disque. Voilà, enfin, moi en tout cas je suis très content.
Après, il faut pas tomber dans l'extrême non plus, mais bon.
Mais c'est vrai que mais ça fait plaisir. Voilà, pour un bon jeu comme ça
Je suis
fait plaisir
d'accord.
que les mecs aient eu les moyens de le faire et. Voilà. Et d'ailleurs, il y a à l'intérieur la petite carte sur laquelle il y a l'OST de Shovel Knight qui est écrit Merci de soutenir Shovel Knight. Donc, c'est vraiment bien que les mecs. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi pour leur plaisir à eux de voir une vraie boîte, un vrai truc, un vrai objet qui se vend.
Bien
Bref,
sûr.
nous nous
Je
sommes
vois
assez épanchés,
que.
je pense, sur Shovel Knight.
Je vois que Poképa parle de jeux dont j'allais bientôt parler justement, comme les free-to-play Pokémon, ou après il y avait le free-to-start full box, mais je l'ai installé mais j'ai pas encore joué. T'as une remarque à faire?
Non, mais je t'en prie, vas-y, continue.
T'y as joué toi ou pas?
Ah, alors les free to play, c'est
Oui.
pas mon truc. Alors j'ai essayé quand même Pokémon Shuffle. C'est sympa, mais c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un canard. Pokémon Rumble World et alors le free to start full block, ça me dit quelque chose, mais ça, je
C'est, tu sais, le petit personnage rouge qui doit tirer des. Alors, c'est une sorte de mur vertical 2D avec différentes couleurs. Et en fait, lorsqu'il tire un pan, ça tire tout le pan de la même couleur. Et du coup, après, il faut qu'il essaie de remonter jusqu'en haut du mur.
D'accord, mais
Bon, je t'enverrai un lien et ce sera plus simple. Mais
Voilà,
enfin ouais, vas-y,
j'ai plus le
vas-y.
truc en tête, mais c'est vrai qu'il y a Pokémon Picross aussi, mais qui est pas encore sorti, me
Si, il est sorti.
semble-t-il. Il est sorti, mais t'as rien dedans, c'est ça?
Bah, il est sorti, mais c'est un free-to-play Pokémon. Donc,
Ouais.
c'est pas terrible, terrible. Enfin, moi, j'ai joué un peu du coup, et alors je savais pas que ça s'appelait Picross avant, mais j'avais une application sur mon portable, ça s'appelle Griddler peut-être. Et en fait, c'est le même principe, hein, sauf que bah, dessus, j'en ai des milliers, des milliers gratuits, et je fais ça pour passer le temps. Et du coup, je pense pas vraiment qu'il sortirait un jeu comme ça. Alors après, il y a différents Picross qui existent, mais c'est les versions que tu payes pour avoir un vrai jeu. Parce que là, c'est vrai que avoir une barre d'énergie qui se vide à chaque case que tu mets ou que tu enlèves, ça reste quand même un peu frustrant pour ce genre de jeu où t'as tendance à un peu, pas mettre au hasard, mais tenter des choses parfois.
Voilà. Bah, moi personnellement, si vous aimez bien le Picross, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça, c'est vrai que c'est un puzzle, hein, qui peut être très rigolo. Moi personnellement, je vous conseillerais plutôt. Donc, il me semble qu'il y a un Picross DS, si je dis pas de bêtises.
Oui, il y en a plusieurs.
Il y en a même plusieurs. Il me semble qu'il y a un Picross DS, Picross DS2, et je crois qu'il y a un Picross 3D.
Et alors, par contre, le 3D, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Et celui-là m'intéresse un peu. J'avais vu 2-3 trucs.
Ah, ça, je savais pas qu'il était. Je pensais qu'il était sorti, mais du coup, c'est intéressant. Hein.
Je pense que je dis n'importe quoi comme d'habitude, mais.
Non, mais voilà, ça vaut peut-être le coup de vérifier. Mais voilà, si vous aimez le
D'accord.
Picross,
2009.
Picross 3D?
Oui.
Bon, bah donc il est sorti.
Sur DS. Par contre, ça devait en être un sur 3DS qui n'est pas encore sorti, ou.
Je
Je ne
me
sais
semble qu'il y a
plus,
une version
mais.
3DS qui. Enfin, moi, j'avais vu passer ça récemment dans les fils
Il y
d'actualité,
a le
donc.
E6 qui est sorti au milieu d'année, en août. Mais.
Ouais, enfin
Ça devait
bon,
être ça.
bref, je pense qu'il y a suffisamment de jeux Picross disponibles, même d'occasion, hein, je veux dire, sur DS, ça doit pas coûter très cher,
Non,
pour
en
éviter
général, ça
d'avoir
sert
à
pas
se
trop
taper
cher.
un Pokémon Picross qui effectivement, comme le dit Poképab, a quand même pas l'air d'être terrible, terrible. C'est parce que Poképab est un gros fan de Pokémon, donc c'est ça qu'il nous donne, quoi. Du
Oui.
Pokémon, du Pokémon, du Pokémon.
Mais en même temps, c'est bien Pokémon.
Ben moi je sais pas, je suis pas un très très grand fan de Pokémon. Je sais que Pika Surf, qu'on avait invité pour une émission spéciale Pokémon lors de la sortie du dernier en date sur 3DS, il avait été absolument passionnant sur le sujet, et c'est vrai que ça donnait envie de s'y mettre. Maintenant, entre deux, moi le seul auquel je me suis mis, c'est Pokémon Puzzle League, parce que j'y jouais avant et que c'est de la boulette de balle. Mais voilà, c'est le seul jeu Pokémon que j'assume.
C'est pas mal déjà.
Alors attention, accrochez-vous, chers amis, je vais donner les deux derniers caractères pour télécharger l'OST de Shovel Knight. Drosgar, t'as le droit de jouer, mais t'as un peu d'avance sur les autres. Alors t'es gentil, tu laisses quelques secondes quand même.
Non, mais j'ai tout noté, mais j'appuierai pas, je pense. J'appuierai qu'à la fin de l'émission si personne l'a choisi. Du coup, j'imagine que c'est Poképap qui va le récupérer.
J'imagine que c'est Poképad qui nous écoute, qui va le récupérer. Ou peut-être Antix, hein, il est peut-être à fond sur son clavier, il est en train de bourriner comme un. Mais je sais qu'on a encore une petite quinzaine d'auditeurs, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose. Donc les deux dernières lettres, c'est 7Q. 7Q. Voilà. Je vous répète pas le code en entier. Si ça fonctionne pas, vous pouvez nous le dire sur Twitter. Si vous avez raté quelque chose, je pourrais éventuellement redonner les indices. Mais voilà, donc l'OST de Shovel Knight a gagné. Les deux derniers caractères, c'est 7Q. Et donc ça vous donne accès à l'ensemble de l'OST téléchargeable. Et on remercie Jake Kaufman, si je dis pas de bêtises. Qui a fait une magnifique OST qui est vraiment absolument superbe pour un superbe jeu. Comment tu vois l'avenir de la 3DS dans les mois qui viennent, années qui viennent? Est-ce que tu penses sincèrement que la NX c'est une 3DS, enfin c'est un successeur de la 3DS et peut-être de la Wii U en même temps? Est-ce que tu penses que la 3DS peut encore survivre une année sans se renouveler? Alors on sait que il y a quand même quelques jeux qui sont prévus pour 2016, on en connaît quelques-uns, mais est-ce que tu crois que ça
Fire
peut
Emblem.
vraiment, vraiment décoller?
Bah, le problème, c'est que. Enfin. C'est un peu idiot, hein, mais c'est vrai que déjà, rien que le fait que Nintendo ait pu s'associer avec. Alors, le nom, c'est DNA, non? La boîte qui fait des jeux mobiles.
Officiellement, c'est DNA.
DNA,
DNA,
ouais.
comme l'ADN en anglais, un DNA, sauf qu'il y a un jeu de mots avec le. Voilà, bref. Mais
Oui, je vois le genre.
Alors après, oui, on n'a pas encore parlé des jeux sur mobile, donc c'est vrai qu'ils vont arriver aussi.
C'est ça, on va commencer là avec le jeu social, avec les Mii. Bon, j'ai vu beaucoup de gens qui commençaient à le bâcher sur Twitter, mais tant qu'on l'a pas entre les mains, ou au moins qu'on n'a pas des reviews un peu plus précises, on peut pas dire grand-chose, parce que pour l'instant, en soi, tout peut encore changer, le jeu a juste été annoncé. Et après, c'est vrai que l'annonce de Pokémon Go, moi, ça m'avait un peu hypé, même si je sais très bien que. Bah, je pense que ça va être une déception dans le sens où on va se retrouver avec une sorte de jeu où on aura Google Maps et il y aura des Pokémon sur la carte, comme il y avait eu pour un poisson d'avril. Donc, ça peut être un peu dommage, mais. Mais après, je pense qu'il faut quand même un peu se focaliser là-dessus parce que le problème c'est que enfin le fait que Nintendo commence à se lancer vraiment vers des jeux mobiles ça montre vraiment que la création d'une nouvelle console portable qui serait uniquement portable je sais pas je le sens un peu moins bien quand même.
C'est ce qu'on disait pour la 3DS pourtant. On a dit sortir une console portable en 2011
Oui, mais
avec
à
tout le
l'époque ils faisaient pas de
smartphone.
jeux mobiles.
Alors à l'époque, ils faisaient pas de jeux mobiles,
Parce que
non.
je jouais sur trois tableaux dont deux qui sont un peu concurrents. Ça reste compliqué parce que le problème c'est que c'est vrai que le portable on a toujours sur nous. Alors moi je joue pas trop sur mobile parce que j'ai l'habitude de jouer avec une vraie console, mais c'est vrai que s'ils veulent toucher un public plus large, ils vont devoir plus taper là-dessus j'imagine et c'est dommageable mais elles peuvent coexister, mais elles vont forcément se bouffer du départ de marché.
Voilà, c'est vrai qu'au global, est-ce que c'est intéressant de sortir un. Est-ce que c'est encore intéressant en 2015 de sortir un hardware dédié aux jeux mobiles? Je sais pas, j'ai envie de dire oui quand même, parce que c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le. On va dire le jeu pour smartphone tablette, pour vulgariser,
Oui.
et que tu regardes à côté le jeu sur console portable, c'est quand même des choses un peu différentes. Je veux dire, tu fais pas tout. Tous les gens qui ont cru que on allait avec son smartphone faire un peu tout et n'importe quoi, finalement, on a quand même déchanté assez vite. Au final, ce que tu retrouves sur smartphone, c'est il y a voilà, des runners, des puzzle games, des choses comme ça. Donc il y a des choses qui sont très adaptées. C'est vrai qu'aujourd'hui, un truc comme programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima qui sortirait sur DS, enfin sur la 4DS, enfin voilà, personne l'achèterait. T'en as des milliers de programmes gratuits comme ça sur n'importe quel magasin d'applications de smartphone. Donc ça n'a absolument aucun intérêt, on est quand même d'accord.
Je suis d'accord.
Sur ce principe-là, il y a tout un tas de choses qui ne pourraient plus sortir et qui ne pourraient plus exister. Maintenant, est-ce qu'un jour tu auras vraiment un Metal Gear mobile? Avec des contrôles sur écran tactile, il y a quand même beaucoup beaucoup de boulot avant qu'on ait, à mon avis, quelque chose d'utilisable.
Oui, après c'est sûr que de ce côté-là, le périphérique en soi change la donne et puis même ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Enfin, bon, moi, je vois ma mère joue sur smartphone alors que je la verrai jamais jouer avec une vraie console de. Enfin, une vraie console. Je dis pas qu'il y a des vraies et des fausses consoles, mais je la verrai jamais jouer avec un périphérique qui est
Si,
dédié
moi j'ai dit,
uniquement aux
hein,
jeux
la PS
vidéo.
Vita, c'est pas une vraie console. Hein.
Non, mais c'est bien pour ceux qui aiment les jeux Jap. Uniquement.
Ben voilà. C'est un peu ça.
Ah, je coupe juste 30 secondes pour dire que je vois que Art Zilg, oui, on va dire comme ça,
Artzilg?
a récupéré l'OST de Shovel Knight.
Oui.
Donc félicitations.
Artzilg, oui, bravo, effectivement, je viens juste de le voir aussi. Félicitations. C'est cool pour toi. Bah, si vous l'avez raté, tant pis pour vous. Hein, voilà. C'était le premier cadeau à gagner. Le deuxième, bah, je sais pas si on le fera gagner parce que comme on n'est pas sûr de faire de jeu, comme on n'est que deux, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sauf si Tonton Méduse se radine à la dernière minute, ce qui serait quand même très sympathique de sa part. Donc, bah, bilan de l'année sur 3DS, finalement, un petit peu, pas dire mitigé. C'est vrai que Majora's Mask, c'est quand même le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité, donc il n'y a pas de problème. Hein. Plus il sera disponible, mieux c'est. Maintenant, ça reste quand même juste un remake. On est d'accord sur le principe.
Oui, je suis d'accord. Après, pour ceux qui l'ont jamais fait, parce que on n'avait pas forcément la console à l'époque, parce qu'on était trop jeune, enfin, l'univers est quand même assez dur. Derrière, c'est bien, ça permet d'ouvrir son marché, mais ça reste un remake.
Ça reste un remake, donc
C'est
c'est
comme
vrai.
un Wind Waker, c'est comme un Twilight
Voilà.
Princess, c'est comme
Quand
un
tu te
Ocarina of
dis, enfin,
Time.
ouais, voilà, moi quand je me dis le jeu de l'année sur telle machine, c'est un remake, c'est quand même un peu. Je me dis qu'on a raté un truc, quoi. Quand tu te dis le meilleur jeu de l'année, c'est un remake d'un jeu qui a déjà 15 ans, à mon avis, t'as raté un truc. Après, il y a des jeux vraiment très sympas. Je veux dire, je recommande à tout le monde Codename Steam, c'est vraiment très amusant. Chibi Robo, bah, t'y as joué, moi j'y ai joué un peu aussi. Je sais que c'est vraiment très, très. Ben, c'est très bien, à petite dose en tout cas.
C'est ça, petite dose.
Triforce Heroes, alors malheureusement, j'ai pas pu l'essayer ni en ligne, j'ai vraiment fait que du solo, donc je peux pas vous dire plus que ça, mais c'est vrai que c'est très bien aussi, je veux dire, en termes de mécanique de jeu, tout ça.
Bah, du coup, moi, j'ai pu l'essayer. Enfin, un peu mieux, parce que c'est vrai que quand on avait parlé dans l'émission, j'avais pas encore eu le temps, parce qu'il est sorti, je crois, la semaine en question, donc j'achète pas forcément mes jeux Day One. Et du coup, j'ai pu y jouer à la fois en ligne, ou avec ma mauvaise connexion, ça marchait pas forcément très bien, parce que je laguais un peu. Ça dépendait des personnes, mais. Enfin, c'est vrai que bah, du coup, moi, dans le Puy de Dôme, c'est pas ouf non plus. Et par contre, j'ai pu essayer aussi chez un copain qui a la fibre, avec lui. Donc, nous, on était en local tous les deux, et lui, il était en. Et après, on se reliait directement avec Internet. Et du coup, on avait quelqu'un d'autre avec nous. Et ça, c'était bien sympa de jouer avec quelqu'un à côté, en fait. Et franchement, ça vaut le coup.
Mais il faudrait voir avec. Mais j'ai déjà demandé les gens de Days in Paris si ça marchait bien. Ils ont dit que, bah, au final, pas tant que ça.
Ah bon?
Ben, apparemment, enfin, ça a bien tourné. Hein, je veux dire, les gens ont quand même un peu saigné le truc, mais avait l'air de. Enfin, quelqu'un avait l'air de dire qu'on tournait un petit peu vite en rond.
Bah c'est vrai que c'est un peu problème parce qu'en fait, enfin j'ai vu un peu partout, oui alors il y a 148 niveaux, enfin c'était un multiple quelconque, parce qu'en fait sur chaque niveau il y a les trois versions alternatives avec des bonus à récupérer ou des défis, ce genre de choses comme éclater les ballons, sauf qu'en fait bah, ça reste quand même un peu les mêmes niveaux, enfin ça change pas grand chose, donc au final c'est vrai que le jeu peut être un peu court. Après bien sûr il y a toujours la recherche de tous les costumes, en ayant tous les ingrédients, en ayant toutes les tous les outils, etc. Mais c'est pas non plus. C'est pas ça qui augmente de façon considérable la durée de vie.
Ça reste de la collectionnite, hein. Ça
C'est
reste,
ça.
voilà, c'est sympa. Les gens qui veulent, alors je sais pas s'il y a un terme francophone pour complétionniste, complétiste, je sais pas exactement, mais les gens qui veulent absolument finir leur jeu à 100%, bah il y a de quoi faire. Pour les autres, ceux qui, voilà, je pense qu'effectivement on tourne malheureusement un peu vite en rond. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, on peut vraiment s'amuser avec, y a pas de souci. Mais c'est pareil, j'ai un petit peu peur que l'intérêt à très long terme soit un petit peu limité. C'est vrai que les Force Wars avaient finalement presque ce même défaut, c'est-à-dire que c'est vraiment très rigolo à jouer, il y a vraiment des choses intéressantes à faire et tout ça, mais finalement une fois que t'as bouclé les quêtes, voilà, tu vas pas forcément les recommencer même avec des gens différents, parce que tu les as bouclées, tu sais comment on fait, donc au pire tu vas indiquer aux gens comment on fait et puis voilà. C'est vrai que là-dessus, le renouvellement est un petit peu compliqué. On va peut-être marquer une deuxième pause musicale maintenant. Ouais, c'est
Pourquoi
peut-être une
pas?
bonne idée. Pourquoi pas? Parce que ça nous permettra de nous reposer un petit peu. La langue, j'entends. Et on va reprendre un petit peu après. C'est simplement pour une question de logistique, c'est qu'après on va parler un petit peu de l'année de la Wii U et des perspectives dernières de la Wii U. Si Méduse n'arrive pas pendant la pause musicale ou un petit peu après, malheureusement, on va être obligé d'annuler le jeu. C'est bien dommage, mais on se le gardera pour un peu plus tard, il n'y a pas de souci.
Oui, y a pas de problème.
De toute façon, ce sera toujours valable dans quelques mois, il n'y a pas de problème. Et donc, on va essayer de faire un petit bilan de la Wii U, mais d'abord, on va s'écouter un petit morceau de l'OST de Fast Racing Neo. Là, en l'occurrence, c'est un morceau qui s'appelle Sunara Plains. Alors je sais plus dans quelle coupe, je crois que c'est dans la coupe cobalt. Voilà, pareil, alors c'est de l'électro, c'est du boom boom, mais ça marche plutôt bien, ça colle plutôt bien à l'ambiance du jeu. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 5 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et on va pour terminer cette dernière émission de l'année. Big up à tous ceux
Dernière.
qui nous
C'est
écoutent.
triste.
C'est triste surtout que voilà, la reprise ce sera probablement au mois de février. En général, mi-février, fin février, on fait quand même une petite pause en janvier. Il y a beaucoup de gens qui passent des partiels au mois de janvier-février. Pense aussi aux pauvres gens qui étudient.
Eh oui.
Aux pauvres malheureux qui étudient.
Désolé de ne pas encore avoir d'emploi fixe comme vous.
Et rémunéré, hein, je te rappelle,
Et
l'important c'est pas
rémunéré, c'est
l'emploi
vrai que
fixe, c'est
c'est
l'emploi
important.
rémunéré. C'est important. Voilà, donc on va essayer donc de faire un petit bilan de la Wii U, un petit bilan de l'année 2015. Moi j'ai retenu quelques jeux de l'année 2015 un petit peu marquants. Je vous réserve les deux plus marquants pour la fin. Ça va pas être très compliqué à deviner. Je pense à Captain Toad Treasure Tracker. Alors officiellement, il est sorti le 5 janvier 2015. Hein. Officieusement, on l'a tous eu 3 semaines avant. Voilà, on l'a tous eu en 2014. Mais bon, voilà, on a commencé à véritablement profiter qu'en 2015. On a quand même eu deux jeux tout mignons qui sont Kirby et le pinceau du pouvoir et Yoshi's Woolly World. Donc, deux jeux tout mignons de deux franchises qu'on aime bien. Kirby, ça a plutôt bien marché, moi je trouve. Enfin, Captain Toad, ça a été, un vrai bon jeu de début d'année qui a vraiment bien lancé le truc et on s'est tous bien éclaté dessus. Kirby et le pinceau du pouvoir, moi j'ai bien aimé. Alors, ça reste un Kirby, donc ça reste un jeu qui est quand même très très basique et tout ça, mais ça marche très bien. Ça marche très bien avec des enfants.
Bah, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est le genre de jeu que j'aurais pu s'imaginer sur une console portable.
Alors ouais, par contre, effectivement, ça ressemble énormément à Kirby Canvas Curse, je crois. Alors, je sais plus quel était le titre en français, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai plus le titre en français.
Sur DS.
Sur DS, qui marchait exclusivement au stylet. C'est vrai que ça reprend énormément de mécaniques de ce jeu-là. Avec simplement une esthétique pâte à modeler, il y a quelques nouveautés, évidemment, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus une version... une espèce de version HD de ce jeu-là, on exagère peut-être un petit peu, mais voilà. Moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est que finalement, tu passes ton temps à regarder l'écran de ton gamepad.
Alors, c'est une résolution de 360p, contrairement à ta télé, qui pourrait être aussi grande que le mien de ton salon.
Voilà, donc c'est un petit peu dommage, parce que le jeu est vraiment magnifique, et qu'on est vraiment tout le temps le nez planté sur le gamepad, et étant donné le principe de jeu, je vois pas trop comment ils auraient pu faire autrement. Mais c'est peut-être le seul défaut qu'il a, mais sinon c'est vrai que c'est vraiment un bon jeu, très sympathique si vous avez des enfants, c'est une très bonne initiation au jeu de plateforme de manière générale. On a eu droit aussi donc à Yoshi's Woolly World.
Qui est trop mignon,
qui est tout en laine, tout en pluche, tout en machin, avec des amiibo magnifiques en plus. J'en ai deux.
J'ai les trois, voilà. Mais j'ai pas le méga, parce que c'est cher.
Alors moi j'ai le méga, parce que ma femme me l'a offert. D'ailleurs elle m'a offert aussi le Yoshi de laine bleu ciel.
Le plus dur à trouver.
Oui, qui est le plus dur à trouver, mais qu'elle a trouvé parce que ma femme est très. Alors, ma femme, pour chasser les amiibo, est d'une efficacité absolument redoutable. Elle trouve des trucs complètement foufou.
Sa copine avec Tomayoshi, ça. Hein.
Peut-être, ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle est en contact avec lui et machin, mais elle trouve des amiibo complètement foufou un peu partout. Et c'est vrai que je trouve ça assez, assez rigolo, quoi, qu'elle arrive à dégoter ça à chaque fois. Voilà, donc moi j'ai beau Yoshi, ça fait bien plaisir. Donc Yoshi Woolly World qui est un très bon jeu de plateforme, un très bon Yoshi, de manière générale, avec beaucoup de mécaniques qui sont reprises des Yoshi's Island évidemment.
Je suis d'accord.
Mais avec tout un tas de trucs exclusifs, qui est pas forcément un jeu facile si tu veux le finir à 100%, mais qui reste ultra accessible évidemment quand on veut pas le finir à 100%.
Comme les jeux de plateforme Nintendo classiques.
Depuis quelques années, de toute façon, où le terminer, c'est à la portée de tout le monde, le compléter, le finir à 100%, c'est beaucoup plus hardcore. Dans les jeux un petit peu marquants de cette année, j'ai retenu aussi deux jeux.
Mario Party 10. Ah non, pardon. Voilà.
Moi j'ai retenu Mario Party 10 et Mario Tennis Ultra Smash, parce que c'est deux jeux sur lesquels on s'amuse beaucoup quand on est à plusieurs.
Autant Mario Tennis, j'en doute pas, même si j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Autant Mario Party, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Enfin, il est sympa, mais c'est vrai que ça me change des Mario Party que j'avais l'habitude. Alors moi, je suis pas d'époque GameCube ni rien, je suis plus d'époque Wii, où c'est vrai qu'il y avait une réelle interactivité, quoi. Je sais pas, je suis un peu dubitatif.
T'es un peu plus sceptique sur le...
Sur le 10, oui.
T'es un peu plus sceptique sur le 10. Moi, je...
Après, j'irai pas gueuler, c'était mieux avant, hein, mais... Alors, c'est différent.
Ce qui manque, je trouve, beaucoup dans ce Mario Party 10, mais comme tous les Mario Party depuis le... Alors, j'ai jamais joué au 3, mais les Mario Party N64 avaient tendance à être extrêmement cruels. Et c'est ça qui faisait le sel du jeu, je veux dire, c'est le chance time au dernier tour dans lequel tu dois échanger toutes tes étoiles avec machin.
Ah, ça.
C'est vraiment le truc qui te faisait rager et jeter ta manette contre la télé, qui à l'époque était une cathodique, donc tu cassais pas l'écran. Hein, voilà.
Comme quoi, et puis, vu qu'elle avait été filaire, il y avait des chances qu'elle revienne vers toi.
Il y avait des chances que tu bousilles ta console avant.
Voilà.
Mais c'est vrai que ce côté ultra cruel, c'est vrai que ça manque énormément. je trouve, dans Mario Party 10. Maintenant, le mode Bowser Party, il est vraiment bien, il est vraiment rigolo. C'est-à-dire, t'as vraiment. C'est la première fois qu'on est à 5 dans un Mario Party, et t'as vraiment une équipe contre Bowser, sur des mini-jeux qui sont très marrants, qui sont vraiment asymétriques et tout ça. Donc, je trouve que c'est bien. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est que les mini-jeux qui sont dans Bowser Party, je crois qu'il y en a qu'une douzaine.
Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et ils n'arrivent pas très souvent. Enfin, qu'à
Et
la fin de chaque tour, c'est vrai que c'est un
qu'à
peu
la fin de
longué.
chaque tour, avec des tours qui sont quand même un peu longuets. Enfin voilà, je dirais qu'il a les défauts de quasiment tous les Mario Party pour moi depuis Mario Party 4-5, c'est-à-dire que les parties plateau, c'est-à-dire la partie la moins intéressante, est très longue, et les parties jeu sont finalement un petit peu réduites, et il manque cette cruauté des premiers épisodes. Mais en dehors de ça, c'est vrai que quand on y joue de manière un peu casu, j'ai envie de dire, ça reste un excellent divertissement, et c'est vrai qu'à côté de Nintendo Land, ça fait un bon party game pour des soirées avec des gens qui s'y connaissent pas trop, et le mode Bowser Party, ça fait quand même bien marrer tout le monde. En général, ça se passe assez bien. Maintenant, tu fais un tour de Bowser Party, t'en fais pas deux, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Sur une soirée, t'en fais un, t'en fais pas deux. Mario Tennis, c'est pareil. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'essayer jusqu'à 4, mais en fait, il y a une subtilité qui a échappé à tout le monde sur Mario Tennis Ultra Smash. Tous les tests que j'ai lus, toutes les analyses que j'ai vues, voilà, les mecs disaient, ah, c'est dommage parce que le gros champi, ça casse le rythme du match. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que tu ramasses le champi, t'as
Ça
une
a l'air, oui,
animation, ça
direct ce que tu
hache.
avais fait.
Ça hache énormément le rythme du match et c'est un petit peu dommage. C'est vrai. Maintenant, il y a une subtilité que je n'ai vue personne, c'est que le super champi, en fait, tu peux l'annuler avec une petite nouveauté du jeu, c'est que quand tu arrives à envoyer la balle sur l'adversaire, il perd automatiquement le point. Si tu arrives à smasher
Ah
ou à
oui,
envoyer la
d'accord.
balle dans le mec d'en face, il perd le point. Et il perd son super champi. Mais sans l'animation de rétrécissement. Donc en fait, c'est vachement, vachement plus subtil que ça en a l'air, les parties avec les méga champis.
Ralentit un peu le moment où ça se passe, mais du coup on a quand même le temps de contre-attaquer.
Voilà, quand le mec d'en face a chopé un méga champi, et ben en fait, l'objectif c'est d'aller lui mettre la balle dans la tronche, et comme il est plus gros, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est une subtilité qui a échappé apparemment à tout le monde, mais t'as quand même la possibilité de faire ça. Bon, après, ça reste quand même un Mario Tennis, ça reste quand même un bon jeu. Alors, on ne reparlera pas évidemment de Xenoblade Chronicles X, puisqu'on en a fait une émission complète la semaine dernière sur le sujet.
Comment on parle de jeu mauvais? Bon, ça va, je troll. J'ai bien envie d'essayer en plus.
Bah moi j'ai commencé à me mettre au Xenoblade Chronicles tout court, mais je dois avouer qu'aujourd'hui je galère ma grand race quand même, parce que je suis vraiment pas habitué à ce genre de jeu-là, et c'est quand même très très compliqué pour moi de m'y mettre, mais bon je suis
Fait, t'as un
convaincu
choc, toi, hein.
que... Ah ouais moi c'est le choc des cultures, hein, si tu veux. C'est vraiment très très compliqué, mais je me dis que ça vaut le coup de s'y mettre, parce que ça fait quand même partie des jeux un peu... Voilà, c'était des derniers gros 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 jeux de la Wii d'abord pour Xenoblade Chronicles, de la Wii U probablement. Donc c'est quand même dommage de pas s'y mettre.
Je suis d'accord.
Voilà, donc je vous renvoie à notre émission de la semaine dernière. Elle n'est pas encore publiée en podcast, elle le sera demain soir si tout va bien, après-demain dans le pire des cas.
Oh.
Voilà, si tout va bien. Hein. Donc voilà, Xenoblade Chronicles X est pour moi les deux jeux de l'année, enfin les deux releases majeures de l'année. C'est
Platoon.
Splatoon. Ça vous aura pas échappé, c'est le jeu, je crois, dont on a le plus parlé cette année, puisque Méduse a parlé de Splatoon quasiment toutes les émissions de la saison 5.
Il en rêve la
Plus,
nuit, il
il
parle
en
en
rêvait la
mangeant.
nuit. On a fait une spéciale Global Test Fire, c'est-à-dire la bêta du jeu. On a fait une émission dessus. On a fait une émission post-3 quand on a pu machin. On a fait une émission quand on l'a enfin eu et testé. On a fait une moitié d'émission sur les dernières nouveautés. Bon voilà, Splatoon c'est le jeu de l'année. Bon, pour moi c'est le jeu de l'année. C'est vraiment un jeu que j'attendais énormément et
Bah,
qui
c'est
ne
vrai
m'a absolument
que.
pas déçu, quoi.
Enfin, c'est tout savoir faire Nintendo, apporter un style de jeu qui s'y portait pas forcément à la base, quoi. Parce que c'est vrai que faire un TPS comme ça, PEGI 7, enfin, on le répète à chaque fois, mais c'est fou quand même.
C'est complètement fou et c'est ce qui manquait au
Est-ce qu'il, et
catalogue
il
de
se vend, c'est ça le
Nintendo, hein.
pire.
Et il se vend, alors on a eu un mail de Nintendo France ce matin. Un mail de Nintendo France ce matin, voilà, qui nous dit 300 000 exemplaires de Splatoon vendus en France. Alors en réalité, 280 000 exemplaires. Presque 300 000 exemplaires de Splatoon vendus en France. Donc on a un nombre conséquent de joueurs en France de Splatoon. Il y en a un nombre conséquent au Japon, puisqu'il va, me semble-t-il, être million seller dans relativement peu de temps, s'il ne l'a pas déjà été.
J'ai plus le chiffre exact en tête.
Il me semble qu'il l'est déjà ou qu'il va pas tarder à l'être. Donc on est... Enfin voilà, c'était un pari de la part de Nintendo, c'était un gros pari. Effectivement, faire un TPS qui est pas du tout leur style de jeu, 7+, donc vraiment accessible à tout le monde, orienté compétitif, donc le truc sur lequel t'as quand même un petit peu de concurrence.
Qui gère bien la connexion.
Qui gère bien la connexion, qui marche, qui a des modes de jeu qui sont passionnants, qui tu vois pas le temps passer avec de la customisation. Enfin, c'est un jeu qui, je trouve, est un pari fou, mais qui a été payant et payant de quelle manière, quoi. J'attends avec une très très grande impatience les... Enfin, je sais qu'il y a des vrais tournois de Splatoon qui se jouent aujourd'hui. On a des vrais tournois d'e-sport de Splatoon qui se jouent. Je sais pas ce que Nintendo va nous réserver pour les mois prochains, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup beaucoup de mises à jour de contenu totalement gratuites jusqu'à présent pour Splatoon.
Dont la moitié qui était déjà prévue dans le jeu initial, mais qui vont retirer, j'imagine, mais bon.
Ouais, il y a une bonne chance quand même qu'il y ait ça. Le jeu est quand même sorti très tôt, mais je pense qu'il fallait, à un moment, il fallait le sortir, quoi. On a fait finalement presque les bêta-testeurs, c'est presque du early access. J'espère qu'ils feront pas la même chose s'il y a une suite. Est-ce qu'il y aura une suite sur Wii U? C'est quand même peu probable.
Sur NX?
Sur NX peut-être, mais sur Wii U c'est peu probable.
Ah oui, donc tu veux poser vraiment pour Wii U? Non, je pense pas.
Parce que là, il y a encore du contenu qui est prévu pour Splatoon pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura du DLC payant à terme? Peut-être. Peut-être qu'ils finiront par... voilà. Maintenant, Splatoon, ça marche bien. Et je veux dire, on est déjà très 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 content de ce qu'on a. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire s'ils font une suite. Je pense que ça va devenir de toute façon une licence forte de Nintendo. Ça va devenir une licence forte dans le domaine du jeu compétitif. Ça va devenir une licence forte dans le domaine du TPS. Bref, c'est... C'est vraiment la réussite de l'année, quoi.
Après, c'est vrai que... Bon, du coup, hier, il y a eu le Smash Direct. Je sais pas si tu l'as regardé. Mais
j'ai vu le résumé.
T'as vu le résumé, oui. Moi, je le regarde en direct. Et c'est vrai que le moment de l'annonce d'un dernier personnage, bon, ça a été Bayonetta. Je suis content quand même, parce que j'aime bien le personnage. Mais je m'attendais quand même aux Inklings. Alors, tout le monde s'attendait à Shovel Knight, sinon, ça aurait pu être possible. Mais bon, c'est vrai que moi, les personnages de Splatoon, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu vraiment apporter un cachet supplémentaire à cette nouvelle IP.
Oui, ça aurait pu lui apporter une certaine légitimité finalement, puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand t'as pas été dans Smash Bros, t'es pas un vrai jeu vidéo, quoi. Et finalement, dans Smash Bros, c'est vraiment là maintenant le Cloud, Solid Snake. Enfin, c'est vraiment t'as des guests de fou. D'ailleurs, à propos de ce Smash Direct, puisque même si Smash Bros n'est pas sorti cette année,
il est sorti en décembre, donc bon.
Il est sorti en décembre, c'est vrai. Mais il a quand même fait l'actualité tout au long de l'année, puisqu'il y a eu de nombreux DLC et contenus payants qui ont été ajoutés. Je sais pas... Enfin voilà, moi, c'est vrai que le DLC Bayonetta me tente bien. J'attends quand même, j'espère qu'elle sortira. Soit un DLC Ultimate, où pour une somme définie, tu peux télécharger l'ensemble des DLC existants. Soit peut-être une édition physique collector, qui va être l'édition ultime, dans laquelle t'auras tout sur la galette. Enfin, je sais pas si ça arrivera. Mais c'est vrai que ce serait sympathique. Ce serait très sympathique. Monsieur Nintendo, si tu nous écoutes, je suis certain qu'une édition collector de Smash Bros. Avec tout d'inclus, le patch dernier niveau, l'ensemble des DLC sur la même galette, je pense que les gens seraient prêts à repasser à la caisse pour ça.
Tonton Kiki, on compte sur toi.
Mais voilà, c'est vrai que bon, moi aussi, je suis très content que Bayonetta soit là, surtout qu'elle est accompagnée d'un amiibo, ce qui fait quand même plaisir.
Oui, et puis il est pas mal.
Et puis, ouais, il a l'air bien sympathique. Maintenant, est-ce que les Inklings sont prévus? Peut-être que l'année prochaine, il y aura les Inklings dans Smash Bros. On ne sait pas, parce que j'ai l'impression que Smash Bros, tous les trimestres, il va y avoir un nouveau DLC, quoi. Les mecs sont partis.
Oui, mais justement, hier, normalement, c'était l'annonce finale. Il nous a dit au revoir, Sakurai. Enfin, c'était vraiment, normalement, la fin. Enfin, le jeu est complet tel qu'il est maintenant.
Alors oui, du coup, ce serait intéressant de faire un petit parallèle. Alors, il y a Antix qui nous signale qu'on a 889 773 ventes physiques de Splatoon au Japon.
900 000.
Depuis sa sortie. Donc, grosso modo 900 000. Sûrement 1 million avec le dématérialisé. Mais voilà, officiellement en vente physique, on est à 889 773 copies vendues. Et Pokepad nous dit que Splatoon est best shooter aux Games Awards, quand même, devant Halo 5, Call of Duty et Star Wars Battlefront. Je ne savais pas.
C'est une prouesse, ça.
C'est quand même une sacrée prouesse, mais voilà. D'autant plus, vers Splatoon, c'est... Quoi qu'il arrive, on peut au moins admirer le culot de Nintendo d'avoir sorti une licence pareille et un jeu qui est fun, qui est juste énorme, quoi. Et auquel on joue toujours maintenant, alors qu'on s'était dit que combien de temps est-ce qu'on va jouer dessus, c'est vrai que continuer à y jouer. Et pour moi, la dernière grosse sortie de l'année, c'est Super Mario Maker.
Tiens, d'ailleurs, j'ai vu un tweet aujourd'hui, 145 000 ventes en France, c'est ça ?
Sur Super Mario Maker, il me semble que ouais. C'est ça, ouais. Donc un jeu qui a quand même plutôt bien marché, alors moins bien que Splatoon. Deux fois moins bien, enfin il est sorti un petit peu après. Super Mario Maker, le seul truc qui pour moi a plombé un petit peu le jeu, c'est la politique un peu conne de Nintendo vis-à-vis notamment de YouTube, mais pas seulement. Voilà, je pense que ça a beaucoup beaucoup empêché le jeu de se développer, parce que c'est vrai que c'est typiquement le genre de jeu, tu vas regarder une vidéo d'un mec qui est en train de construire un niveau un peu foufou,
ça et finalement,
ça te pousse à aller y jouer derrière, et le seul moyen d'y jouer, bah, c'est d'acheter une Wii U, et voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que pour moi, Super Mario Maker aurait vraiment été l'occasion de faire de la publicité complètement gratuite. Voilà, et si Nintendo avait pas cette politique un peu conne, ça aurait pu être le nouveau Minecraft, au sens, les vidéos sur Minecraft, t'as des trucs, voilà, des trucs, c'est un peu le grand n'importe quoi. Je pense que Super Mario Maker pourrait vraiment carrément être... Le nouveau Minecraft de YouTube, et ça aurait pu vraiment être un énorme 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 succès. J'ai l'impression qu'il est c'est un très gros succès quand même, ça a très bien marché, c'est vrai que c'est très rigolo, ça marche de 7 à 77 ans, tout le monde s'amuse, même les gens qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo peuvent tout à fait s'amuser à créer des niveaux et essayer d'y jouer, donc ça marche bien. Est-ce que le phénomène va pas s'essouffler parce que justement à la promo est un petit peu terminée maintenant, on est 4 mois après la sortie du jeu. Est-ce que ça va s'essouffler? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des DLC de prévu? Il y a eu déjà des mises à jour qui ont rajouté pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres DLC de prévu qui permettraient d'intégrer d'autres choses, à part le DLC Mercedes, hein, celui-là vous avez pas le droit.
Ridicule. Enfin, c'est vrai que je crois que les diagonales, enfin pas diagonales, mais les terrains aussi, les terrains en diagonale, on peut appeler ça comme ça, n'ont toujours pas été ajoutés, normalement, parce que je vois toujours des gens qui crient un peu dessus.
Ouais, il y a quelques trucs
les
qui
pentes,
font tiquer un peu
voilà,
tout le monde. Les pentes n'ont pas été ajoutées encore, il y a plein de choses qui n'ont pas été ajoutées encore. Est-ce que ça va être ajouté ou pas? Je veux dire, quand le jeu est sorti, il était déjà très complet, hein, en termes d'options de customisation. Il y a quelques bugs qui ont été corrigés sur les premières releases. Je pense que c'est essentiellement du bug fixe, de choses qui n'avaient pas été vues pendant les phases de test. Il y a eu des choses qui ont été ajoutées, je pense au checkpoint par exemple, qui rendent certains niveaux beaucoup plus jouables d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Checkpoint, parce que c'est vrai que c'était quand même un peu infernal. Qui font que les vies commencent à avoir un intérêt, parce que si je dis pas de bêtises, quand tu ramassais des vies jusqu'à présent, ça faisait pas grand chose, puisque forcément l'objectif c'était de finir le niveau d'un trait. Là je crois que les vies commencent à avoir de l'importance avec les checkpoints, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que les vies sont décomptées avec les checkpoints. Voilà, c'est un jeu qui reste quand même très rigolo. Moi, c'est surtout mes enfants qui y ont joué, pas tellement moi.
Eh bien, pas moi, parce que je n'ai pas d'enfant. Mais vrai que j'ai pas joué récemment, en tout cas. J'ai surtout joué au début, parce que c'est un jeu qui... Enfin, je trouve que ça joue pas mal à plusieurs, où il y en a un qui fait le niveau et l'autre qui essaye de résoudre, et j'ai pas eu le temps de trop jouer à la console à plusieurs ces derniers temps, donc
voilà. Mais c'est un très bon coach co-op, comme disent nos camarades anglophones. C'est vraiment, ça peut être un excellent party game. Moi j'y ai joué on avait trois gamins et trois adultes en gros, à être sur le même niveau de Super Mario Maker, c'est-à-dire à faire un niveau de Super Mario Maker tous ensemble, à rajouter des trucs, à se dire tiens, ce serait rigolo qu'on mette ça et tout ça, et à ce qu'il y en ait un qui essaye de le jouer, à dire non, mais attendez, là c'est pas possible, et à reprendre le truc, et finalement à faire quelque chose de très collaboratif, à se repasser le gamepad avec les enfants qui disaient ah tiens, je veux mettre plein de Bowser à tel endroit, je veux mettre plein de trucs à tel. Je veux mettre ça, et puis l'adulte qui finalement derrière corrigeait en disant non, mais faut enlever ça, faut mettre une plateforme là. Vraiment, c'est presque un excellent party game, ce qui est assez curieux pour un jeu de ce type-là, et c'est de toute façon bien plus qu'un vulgaire éditeur de niveau, hein. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a vraiment plein de choses cachées dedans à découvrir, et qui sont vraiment intéressantes à faire.
Heureusement, parce qu'en soi, un simple éditeur, ça aurait pas été très utile non plus.
Non, oui, clairement. Clairement, ça aurait été un peu dommage. Pour finir un petit peu, comment tu vois l'année prochaine sur Wii U? Donc on sait qu'on a on a toujours un Legend of Zelda dont j'ai de plus en plus, enfin que personnellement j'ai de plus en plus peur qu'il soit à cheval entre la NX et la Wii U, comme Twilight Princess avait été à cheval entre la Wii et la GameCube. Et on a un Star Fox Zero dont on a une date de sortie officielle, je crois que c'est en mars, si je dis pas de bêtises, 2016, avril 2016. On va aller vérifier la date vite fait. Voilà, mais qu'est-ce que tu vois toi d'autre? C'est vrai qu'on n'a pas eu d'annonce, on sent que
avril, c'est ça.
Ça s'épuise un petit peu quand même.
Bah, le problème, c'est que la Wii U, vu qu'il n'y a pas un gros parc de consoles installées, forcément il y a moins de jeux qui sont développés, mais c'est un peu con de dire ça comme ça, mais c'est logique. Du coup, ben, soit ils la mettent à mort rapidement pour passer à autre chose, soit ils attendent qu'elle meure à petit feu pour ensuite essayer de partir sur des bonnes bases, mais dans ce cas-là, c'est vrai que j'attends pas forcément grand chose, dans le sens où bah moi, même si le Star Fox et le Zelda m'intéressent, je sais pas encore ce que ça va donner, parce que bon, Star Fox on a pas mal vu, donc je sais à peu près à quoi m'attendre, mais le Zelda, 10 secondes de trailer et une minute de gameplay, ça sert pas à grand chose. Donc on a encore le temps de voir venir. C'est plus sur 3DS que j'attends, surtout là en février je crois. Je vais vérifier quand même avant de dire des conneries. Oui c'est ça, en février. C'est... Pokémon Mega Donjon Mystère.
Voilà, mais
alors celui-là c'est... Voilà.
On sait que tu es un grand fan. Il y a Fire Emblem Fates aussi, hein, sur
aussi, sur aussi 3DS, mais j'attends parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre, ça ne se dit pas. Quelle version je vais choisir suivant l'histoire que je veux prendre, ou si je prends la version collector avec tout qui est disponible.
Moi je prendrais bien la version collector, hein, très sincèrement.
Elle me tente aussi, ouais.
Elle me tente énormément, la version collector, parce que c'est vrai que ça fait le jeu complet finalement. Enfin, on va dire l'ensemble de toutes les histoires. On rappelle que la version collector, hein, contient l'histoire des gentils, l'histoire des méchants sur deux... Alors je sais plus si c'est sur deux cartouches séparées ou si c'est sur la même cartouche.
Je crois que c'est sur la même, mais je veux pas dire de bêtises. Et c'est 70€, non ? À peu près.
C'est, voilà, et tu as en plus le scénario alternatif, je sais plus quoi, qui est téléchargeable, oui, avec. Donc t'as vraiment les... Parce qu'au Japon, c'est sorti sous forme de deux jeux avec deux scénarios, et il y a un DLC qui est sorti avec un troisième scénario, en gros, qui était juste téléchargeable. Là, la version collector, c'est vraiment le complet. T'as tout d'un coup, y compris le truc de téléchargement, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Mais bon, pour en revenir à la Wii U, c'est vrai que à part Star Fox, dont on sait qu'il va sortir, et Legend of Zelda, dont on sait qu'il est toujours prévu, on n'a pas vu grand-chose venir. Alors, je sais pas si la NX sera présentée à l'E3. Est-ce qu'elle sera présentée à l'E3 pour une sortie au mois de décembre? Plus ça va, plus je me dis que c'est probable. Est-ce que Nintendo va arriver...
Moi, en tout cas, je verrais bien une présentation cette année. Je sais pas s'il y aura une sortie cette année, mais présentation cette année,
ça me paraît évident. Du coup, plagiat de Sony 6 mois plus tard, ça me paraît évident.
Oui, comme d'habitude, ou un an.
Comme d'habitude. Ou un an plus tard, dans le pire des cas, mais voilà. Ça me paraît évident. Les derniers brevets qu'on a vus étaient quand même intéressants, donc je sais pas s'ils seront appliqués pour ça, mais c'est vrai que ça fait naître plein de curiosités. Mais comme avec la Wii, comme avec la Wii U, Nintendo a quand même le savoir-faire pour exciter la curiosité de tout le monde avec des idées dont on sait qu'elles vont être... forcément un peu... sortir un peu du commun. Maintenant, c'est vrai que sur Wii U, il y a peut-être un petit baroud d'honneur sur 2016, mais j'ai quand même bien peur qu'il y ait assez peu de jeux qui sortent. Alors, sauf si tout d'un coup ils nous disent, ah, bah tiens, Bayonetta 3 en exclusivité sur Wii U, hop, ça y est, c'est parti. Je vois pas de très grosse licence. Alors je sais pas, il y a des gens qui disent, mais il y a un F-Zero GX HD par exemple, ça coûterait pas grand chose à faire, et voilà, ça ferait un gros jeu à sortir à un moment.
C'est vrai que
ce serait encore un remake, mais ça permettrait de la maintenir sous respirateur artificiel en attendant que la NX prenne le relais, quoi. Voilà, je sais pas trop. Voilà, la seule sortie qu'on connaît aujourd'hui, c'est Star Fox Zero, et c'est quand même dans 4 mois. En attendant.
Il a quand même été pas mal bâché.
Et oui, mais je pense que c'est par des gens qui n'y ont pas joué. Hein.
Oui, je pense aussi, mais bon.
Voilà. Mais en attendant, c'est un petit peu le vide, quoi. C'est même un petit peu inquiétant de voir que pas grand chose qui s'annonce.
Ça n'augure rien de bon pour l'instant.
En tout cas, ça n'augure rien de bon. J'ai bien peur qu'on fasse une année comme la dernière année de la GameCube ou la dernière année de la Wii, finalement, où c'est un peu vide, quoi. Et je vais pas dire qu'il nous reste que nos yeux pour pleurer, mais pas loin. Bref, sur cette touche un petit peu pessimiste, je pense que nous allons terminer cette émission qui a duré, comme d'habitude, bien trop longtemps.
Alors, plus grand regret.
Alors, pas notre plus grand regret, mais c'est vrai que
Non,
bonne
au leur,
émission
pas à
au
l'autre.
leur. Ah oui, mais pas au nôtre, au leur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce bilan de l'année 2015, hein, en toute simplicité. Bilan de l'actualité, bilan de la 3DS, bilan de la Wii U, quelques perspectives pour l'avenir. C'est vrai que 2016, j'ai peur que ça s'annonce un peu. Voilà, sur 3DS, le mouvement ralentit depuis quelques mois, donc on sait qu'on va avoir quelques gros jeux, mais voilà. Et sur Wii U, c'est vrai que là, c'est pareil. On sent quand même qu'il risque d'y avoir un gros coup de mou. Qu'est-ce qui va nous rester? Les DLC de Smash Bros, des choses comme ça. Je sais pas
Ouais,
exactement ce que ça va
il
donner.
aurait sorti en février, mais bon.
On verra bien si Nintendo arrive à remplir les trous dans le calendrier d'une manière ou d'une autre.
Ou des éditeurs tiers, ou des
Ou
jeux
des éditeurs
indépendants,
tiers, ou des
ou
indés, enfin voilà. On verra bien, mais c'est
combler un
vrai que
peu.
là, pour l'instant, on sent quand même un calendrier un petit peu vide. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'indications sur des grosses choses qui arrivent. Bref. Eh bien nous, on se retrouve pour la saison numéro 7 du Dojo Bar, probablement aux alentours du mois de février-mars, peut-être plus février pour équilibrer un petit peu, enfin pour essayer d'avoir quand même un petit peu plus d'émissions. En attendant, on vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année, on vous le souhaitera probablement un certain nombre de fois, et non mais ça me paraît évident, on va souhaiter une
Oui,
bonne année
bien sûr.
2016 à tout le monde. J'en profite pour
Meilleur que
dire que donc
2015.
le podcast de la semaine dernière et de cette semaine seront disponibles en même temps. Hein, voilà, pour des raisons d'emploi du temps un peu compliquées des uns et des autres, on a été obligé de recaler les choses comme ça. Donc voilà, ce sera disponible en même temps. Vous pourrez les réécouter à partir de demain ou après-demain, en fonction de ce que j'ai le temps. Bah écoutez, jouez bien, jouez intelligent. Faites-vous plaisir. Et si vous n'avez pas de Wii U, achetez-en une, hein, c'est le moment. C'est là où il y a. Voilà, jouez à Splatoon, mettez de la peinture partout. C'est le moment de se lâcher. Trosgar, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir conduit cette émission avec moi aujourd'hui.
D'avoir essayé surtout, c'était pas très glorieux.
C'était pas si mal que ça. Hein. Écoute, étant donné qu'on a eu quelques petits soucis techniques, je veux dire que c'était plutôt une émission réussite. Voilà, donc on se retrouve l'année prochaine. À ciao tout le monde.
Bonne fête à tous!